Santa Fe de Ralito, c'est un petit village où se sont réunis des hommes politiques colombiens de toutes les régions du pays et des paramilitaires avec un objectif, refonder le pays, la refondation de la patrie. Ce projet est une mainmise des paramilitaires sur l'État colombien. Ils voulaient prendre le pouvoir politique et assurer leurs intérêts économiques avec le trafic de drogue.
J'étais un gros propriétaire terrien colombien, un père de famille, et j'ai été victime de la guérilla qui me demandait de l'argent et me volait du bétail. Et c'est avec le trafic de drogue que je me suis enrichi.
C'était le 27 septembre 2008. Salvatore Mancuso a commencé à raconter sa vie par vidéoconférence depuis sa prison américaine. La vie d'un simple citoyen colombien. Le 13 mai 2008, Salvatore Mancuso a été extradé vers les États-Unis. La DEA, l'autorité américaine de lutte antidrogue, l'accuse d'avoir trafiqué 17 tonnes de cocaïne vers les États-Unis et l'Europe entre 1997 et 2002. Cet homme, peu de gens le connaissent. Ancien chef des milices paramilitaires d'extrême droite, principal fournisseur de cocaïne en Europe, il est au cœur d'un mélange détonnant, politique, cocaïne. C'est à Monteria, dans le nord de la Colombie, que Salvatore Mancuso est né le 17 août 64. Surnommé El Mono, le singe, mais aussi Santander Losada, le nom avec lequel il signe les documents officiels, Mancuso vient d'une famille aisée. Un père italien, une mère colombienne, de riches propriétaires terriens qui lui ont permis de suivre des études supérieures et d'être ingénieur en génie civil. Nous avons rencontré Raomir Benitez. Ici, à Monteria, le nom de Mancuso est tabou. Ce journaliste au quotidien local est le seul à briser la loi du silence.
Sa famille lui a permis de voyager aux États-Unis, où il a étudié l'anglais quand il était jeune. Mais il est rentré à Monteria pour se consacrer à ses affaires, la vente de bétail. Il s'occupait du business de sa finca, qui était très rentable. La plupart des entreprises de la région sont liées à l'élevage, à l'agriculture. Et Mancuso possédait beaucoup de terres. Les amis qui l'ont connu pendant sa jeunesse, à l'école, quand il a démarré sa vie, parlent d'un homme à la forte personnalité, sans problème particulier, mais pouvant se montrer très dur lorsqu'il fallait affronter des problèmes. C'était un type plutôt grand, assez jovial et bon vivant. Un type qui aimait les motos et les parties de chasse. Il n'avait rien de spécial. Ce n'était rien d'autre qu'un entrepreneur de 33 ans qui travaillait dans sa finca familiale pour ses enfants et pour sa famille. Vraiment rien de spécial.
Et pourtant, aujourd'hui, du fond de sa prison à Washington, le paisible et riche fermier se met à table et, en parlant, fait trembler le pays de la cocaïne.
Nous avons infiltré toutes les municipalités de notre secteur, nous avons choisi des conseillers, des maires, même des députés. Voilà ce qu'a été mon rôle dans la vie de mon pays.
Tout commence après la mort du légendaire narcotrafiquant Pablo Escobar en 1993. Les FARC, les guérillas d'extrême-gauche et les AUC, les paramilitaires d'extrême-droite, vont se livrer une guerre sans merci pour prendre le contrôle du trafic de drogue et des territoires de la production de coca. Jusqu'à la mort de Pablo Escobar, les grands cartels de Medellín et de Cali étaient les maîtres du business de la cocaïne.
La principale caractéristique des deux grands cartels de Medellín et de Cali était qu'ils contrôlaient tout le processus de fabrication de la cocaïne. Cela allait de la distribution des semences aux paysans pour cultiver la coca, à l'organisation de la récolte et de la transformation en cocaïne par un processus chimique dans des laboratoires clandestins pour obtenir de la pâte de coca destinée à être raffinée. Tout cela était sous le contrôle des hommes des cartels de Medellín et ensuite de Cali. Une fois cette pâte produite, elle était exportée par des hommes des cartels. Les routes pour acheminer la drogue vers les États-Unis et l'Europe passaient par l'Amérique centrale, avant de traverser les océans Pacifique et Atlantique via la région des Caraïbes. Elles étaient toutes contrôlées par Escobar et ses frères.
Pablo Escobar y los hermanos.
En 1994, les paramilitaires sont créés par décret ministériel pour lutter contre les FARC. C'est Alvaro Uribe, l'actuel président de la Colombie, qui est à l'origine de cette décision. Alors gouverneur d'Antioquia, une des régions les plus riches et les plus peuplées du pays, il développe ses propres milices. Sa famille, des riches propriétaires terriens, avait été victime des FARC. Alvaro Uribe s'était juré de détruire la guérilla d'extrême gauche qui avait assassiné son père. Claudia Lopez est politologue. Elle s'intéresse depuis des années aux mouvements armés illégaux.
La grande expansion des paramilitaires débute en 1997-98. Les paras vont reproduire dans la plupart des régions colombiennes ces milices qu'ils avaient créées à Antioquia et Córdoba au début des années 90. Cela avait tellement bien fonctionné dans ces régions qu'ils ont voulu l'étendre au reste du pays. Et ils l'ont tellement bien fait que ça a été fatal à la démocratie et à la vie de millions de citoyens.
Les paramilitaires d'extrême droite ont réussi à prendre 20 régions sur les 32 que compte la Colombie. Devenus les maîtres absolus de ces territoires, ils tuent férocement tous ceux qu'ils considèrent être des opposants, au nom de la lutte anti-FARC. Les frères Castaño, Fidel et Carlos, sont les premiers grands chefs de ces armées chargées de sécuriser le territoire et de s'occuper du narcotrafic. Fidel, l'aîné des deux, était surnommé Rambo. Son obsession était de venger son père, enlevé et tué par la guérilla maoïste. Il a formé de véritables escadrons de la mort qui trucidaient tous les paysans suspectés d'appartenir aux FARC. Les frères Castaño ont travaillé avec Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Ils n'ont jamais caché que 70% de leur argent venait du trafic de la drogue.
Aujourd'hui, nous les citoyens colombiens, nous le peuple, nous devons mener cette grande bataille finale que nous espérons achever en moins d'un an.
Sur ces images tournées dans l'Urabá en 1994, Carlos Castaño harangue ses hommes qui étreignent leurs uniformes tout neufs des AUC, les unités d'autodéfense de Colombie.
Si la guérilla FARC continue à se moquer du pays et que le gouvernement continue à lui offrir la nation, comment peut-on prétendre rester inactif? Que le monde me juge comme un être belliqueux s'il le veut, mais je ne suis pas un être belliqueux. Et je vous le dis aujourd'hui, nous allons nous battre, nous allons lutter. Nous serons une vraie armée, les gars. Depuis le sud jusqu'au nord, de l'ouest à l'est, nous serons sous un même drapeau. Les unités d'autodéfense de Colombie, pour la Colombie.
J'ai connu les Castaño, ils m'ont invité à faire partie des AUC. Et très vite, les gens de notre région se sont rendus compte qu'un petit groupe composé de seulement 10-12 personnes avait osé affronter les FARC et avait réussi à les expulser de la zone.
Salvatore Mancuso a été formé par les frères Castaño qu'il a rejoint en 1995. Il leur a sauvé la vie à plusieurs reprises lors d'affrontements contre les FARC. Il est alors devenu leur bras droit. Il leur a succédé comme chef des AUC lorsque Fidel, le plus vieux des deux, a été tué et Carlos arrêté.
Quand il a décidé d'entrer dans la clandestinité, il a complètement disparu. On ne le voyait plus dans les rues de Monteria, il restait dans sa finca, sa propriété. Il n'était plus repérable et on ne le voyait plus au club de tir ni dans les autres endroits où il avait l'habitude d'aller quand il était jeune, comme dans l'entreprise de ses parents.
Non,
c'est un homme qui a décidé d'entrer dans la vie clandestine. Et c'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas comme certains qui, pendant la journée, se comportent comme des citoyens normaux, se baladent en ville, et la nuit se mettent en tenue camouflage pour lutter contre la guérilla à l'intérieur des AUC. Non, ce n'était pas son genre.
Torture, enlèvement, arrestation arbitraire, déplacement de population, les exactions commises par les hommes de Mancuso se comptent par milliers. Selon les associations de victimes, ils auraient commis plus de 123 000 crimes pour devenir les maîtres de ces régions. Créées dans un cadre légal, ces milices ont commis tellement d'horreurs qu'elles sont mises hors la loi en 1997. À Bogota, Alejandro Santos dirige la rédaction de l'hebdomadaire Semana. Observateur écouté du monde politique de son pays, il dénonce sans cesse les maux de la société colombienne.
Dans le département de Córdoba, quand Mancuso, à la tête des paramilitaires, a installé ses hommes dans la région, la sécurité s'est considérablement améliorée dans le pays.
En Córdoba, mejoró sustancialmente. Los secuestros de la guerrilla se acabaron.
Les enlèvements par les FARC ont cessé, les extorsions de fonds aussi. Donc on peut dire que la société voyait d'un bon œil le paramilitarisme. C'était la fin du racket, le commerce fonctionnait à nouveau, il ne fallait plus payer de pot de vin. Mais le problème, c'est que derrière cette apparente sécurité, il y avait des massacres de civils, des assassinats. Beaucoup de civils sont morts.
Nous avons rencontré Máximo Jiménez. Il est le fils d'un chanteur de gauche célèbre, El Indio Sinuano. Menacé de mort par les paramilitaires de Montería, son père a dû s'exiler en Autriche, où il vit aujourd'hui.
Nous avons dû quitter la petite propriété dans laquelle nous vivions parce que des voisins avaient dit à mon père que les paramilitaires allaient venir nous expulser de nos terres. Cela ne concernait pas seulement nous, mais aussi les gens des fermes voisines. Oui, les paramilitaires sont arrivés et nous avons dû partir vers 5 heures de l'après-midi avec quelques effets personnels que nous avons pris en vitesse. Nous avons été dépouillés. Tous nos biens appartiennent désormais au patrimoine de Mancuso. D'une manière illégale. Mais en fin de compte, légale.
Si. Porque los administradores.
Car les administrateurs des biens publics.
Del erario público. Funcionarios.
Et les fonctionnaires sont ces hommes.
Son colocados por ellos. Entonces.
Donc ceux qui signent.
Ceux
qui légalisent les papiers officiels sont en fait des prête-noms.
À travers de autres nombres,
donc les biens finissent par lui appartenir.
De su propiedad.
Miguel Antonio Blanco est éleveur. Il a été lui aussi victime des AUC. Depuis 2002, il est en procès mais il n'a toujours rien récupéré.
Ils ont commencé à devenir puissants, à étendre leur domination sur la ville de Córdoba. Ici, les éleveurs de bétail sont nombreux, l'élevage est une source de richesse. Et c'est de façon tout à fait arbitraire qu'ils ont commencé à voler du bétail aux éleveurs et à leur voler aussi des terres. Les paramilitaires arrivaient dans ta propriété et ils te disaient « Ou tu me vends tes bêtes ou c'est ta veuve qui me les vend ?» Alors les gens se pliaient, ils vendaient n'importe comment et s'en allaient.
Maria, elle, a perdu son mari. Il a disparu soudainement le 13 septembre 2001. Elle n'était pas chez elle. Les milices sont venues le chercher à la maison.
D'après ce qu'on m'a raconté, ce que mon fils m'a dit, ils étaient une quinzaine. Ils ont débarqué à la maison et ils ont dit à mon mari, « Viens, on doit te parler. » Il leur a répondu, « Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez me le dire ici. » Il était avec mon plus jeune fils. Ils ont voulu lui retirer, mais il ne les a pas laissés faire. Et comme il ne les a pas laissés faire, ils lui ont dit, « Toi, fils de pute, si tu ne comprends pas avec la manière douce, il leur a dit de laisser notre fils tranquille et il les a suivis. Et ils lui ont dit, n'essaie pas de faire le malin, fils de pute, regarde combien on est. Et alors il a disparu.
Dans le sud-ouest de la Colombie, dans la région de Putumayo, plus de 1000 personnes auraient été tuées. Le 11 novembre dernier, dans le village de El Tigre, les policiers ont trouvé un charnier, une dizaine de cadavres, des paysans tués il y a 7 ans. Pour espérer retrouver des traces de leurs proches, les villageois ont voulu aider la police à déterrer les corps. Mais la tâche est difficile.
Quand nous avons étendu notre pouvoir dans les différentes régions, toutes les corporations ont dû financer les AUC. Ni les éleveurs, ni les agriculteurs, ni les multinationales, ni même les entreprises nationales n'ont été épargnées.
Autre particularité colombienne, pour se défendre des FARC et surtout pour pouvoir mener leurs affaires en toute tranquillité, les multinationales payaient les AUC en toute connaissance de cause. Hébert Velosa témoigne depuis sa prison de cette complicité avec les bananeraies américaines. Cet ancien chef paramilitaire surnommé HH a travaillé aux côtés de Mancuso. Il a admis avoir tué avec ses miliciens plus de 3000 hommes.
Toutes les multinationales productrices de bananes de la région d'Urabá nous ont payé. C'est une réalité que nous devons raconter. Le monde entier doit savoir. Aux États-Unis, Chiquita Brands l'a admis et a même dû verser une amende pour avoir payé l'impôt paramilitaire. Chiquita Brands nous finançait et aujourd'hui, elle a fini par l'admettre. Avec cet argent, nous nous financions. Il nous servait pour acheter les fusils et les munitions pour nos combattants. On payait la troupe, on achetait des aliments. Comment ne pas admettre que l'on ne tuait pas des gens avec cet argent ? On achetait des balles et on payait les gars qui tuaient des gens. Oui, nous avons tué pas une, mais des centaines de personnes avec cet argent. Avant, il y avait des grèves très suivies et très longues qui paralysaient l'économie des bananeraies. Et ça, ça coûtait des millions. La dernière grève à Urabá s'est produite en 1995. C'était la dernière car après, nous avons interdit ces grèves en prenant le contrôle de la région.
S'allier avec les multinationales pour s'assurer des entrées d'argent et sécuriser le narcotrafic. Les AUC ont même fait plus, comme passer des accords avec les FARC, leurs ennemis jurés, pour faire fructifier le business.
Entre la guérilla des FARC et les paramilitaires, il y a toujours eu des négociations, des relations. Parfois, elles n'étaient que ponctuelles, et parfois, il y a eu des heurts très violents entre eux dans d'autres domaines. Mais il y avait des accords. Par exemple, la guérilla surveillait les cultures et contrôlait certains travailleurs contre de l'argent. Ensuite, la guérilla a essayé de s'emparer de certains secteurs dominés par les paramilitaires. Et cela a provoqué une guerre terrible entre eux.
Une guerre que les milices de Mancuso ont gagnée, puisqu'elles sont devenues chaque jour plus puissantes.
En 2000, il y avait plus de 25 000 paramilitaires très bien armés, financés par le narcotrafic. Ils contrôlaient 80% du territoire national. Ils ont fédéré le business de la drogue comme on fédère un État. Ils se sont organisés de manière fédérale sous le contrôle d'un État-major Il représentait une vraie menace pour la Colombie qui grandissait de façon insidieuse dans le pays. Il prenait des territoires, il prenait l'argent public, faisait élire les politiques, n'hésitait pas à menacer les récalcitrants et ont construit un véritable système politique.
Les gens avaient-ils un autre choix que celui de se lier à notre groupe de paramilitaires? Nous étions le pouvoir, ils n'avaient pas d'autre option. Nous commandions, nous avions les fusils, nous contrôlions le territoire, nous dictions les lois et les règlements. Quelle autre option avaient ces pauvres gens? Aucune. Aucune.
Holman Morris est journaliste. Dans son émission hebdomadaire à contre-courant, il dénonce inlassablement les violations des droits de l'homme dans la Colombie du narco-business. Ici, il accompagne des enquêteurs sur un charnier. Morris a quitté la Colombie entre 2001 et 2003 après des menaces de mort. Il vit sous la protection permanente de 5 gardes du corps.
Mancuso est un narcotrafiquant. C'est un homme qui a toujours eu une grande envie de pouvoir. Sa famille est puissante. Il a eu une bonne éducation. C'est quelqu'un de très bien élevé. Mais il a voulu à un moment donné jouer à la guerre. Et ce jeu de guerre s'est transformé en jeu de narcotrafic. C'était la seule manière pour devenir très riche, pour avoir des terres. Et il est devenu un baron de la guerre, un baron du narcotrafic.
C'est aux États-Unis et en Europe que les narcos colombiens déversent principalement leur cocaïne. Leur premier client, les mafias mexicaines pour l'Amérique et pour l'Europe, en Italie, la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. La Colombie produit entre 300 et 400 tonnes de cocaïne par an. ...60% de cette production inonde l'Europe chaque année sans jamais être interceptée. La 'Ndrangheta, la mafia calabraise, gère ce trafic. Silencieuse et puissante, c'est la seule mafia qui a réussi à gagner toute la confiance des narcos et des paramilitaires colombiens. C'est ici, en Calabre, berceau de la 'Ndrangheta, que Nicolas Gratteri traque depuis 20 ans les mafieux.
Nous savons que la 'Ndrangheta est la numéro 1. Elle a le quasi-monopole de l'importation de la cocaïne en Europe. Et nous savons qu'elle a des liens directs avec les cartels colombiens. On a découvert que plusieurs Italiens de la 'Ndrangheta avaient eu des contacts avec Salvatore Mancuso. C'est clair, comme Mancuso a été le chef incontesté des AUC, en tant que tel, cela signifie qu'il a le pouvoir de décision sur tout le territoire contrôlé par les AUC. Et donc sur tout le trafic des stupéfiants. La 'Ndrangheta est présente en Colombie depuis de nombreuses années. À Bogota, par exemple, dans la zone rose, il y a de nombreux trafiquants de cocaïne italiens. Ils travaillent là-bas comme intermédiaires pour acheter cette cocaïne.
La drogue ne se négocie pas seulement à Bogota, mais dans tout le pays, comme à Monteria, la ville natale de Mancuso. La présence de nombreux immigrés italiens dans la région a permis aux Calabrais et aux Colombiens de tisser aisément des liens. Dans l'histoire de la 'Ndrangheta, les routes mafieuses ont toujours croisé celles de l'immigration.
Il apparaît que Mancuso a eu des contacts avec des personnes de premier plan de la criminalité organisée italienne liée au trafic de stupéfiants. Comme par exemple la famille Sale, qui d'après nos enquêtes nous ramène à Roberto Panunzi. Et Roberto Panunzi est l'un des plus grands importateurs de cocaïne en Europe. Il ne faisait affaire qu'à partir de 3 tonnes.
Des chiffres impressionnants. Pour comprendre les liens entre les boss calabrais et les narcotrafiquants colombiens, nous avons retrouvé en Italie Bruno Fuduli. Il a travaillé 7 ans pour le compte de la mafia calabraise. Mais un jour, il a décidé de collaborer avec la justice. Aujourd'hui, protégé par la police, il est devenu un témoin clé dans les enquêtes des autorités italiennes. Car chez les Calabrais, les repentis sont très rares.
Je contactais les gens qu'on me disait d'appeler, c'était des amis à eux. Le frère de l'un d'entre eux, par exemple, était un homme politique colombien de premier plan, et il préparait une importation de cocaïne. Cet homme politique, frère d'un certain Giorgio, se déplaçait avec 10-15 personnes armées dans des voitures blindées. Il était de la région de la Guaira. Mais je m'occupais seulement de la transaction contractuelle et commerciale, toujours pour le compte de la 'Ndrangheta. C'était eux qui récupéraient la marchandise sur le port, qui la vendaient et tout le reste.
Vous aviez la confiance des narcos ?
Oui, je l'avais gagné dans les années, et ils avaient confiance en moi. Surtout parce que les cargaisons que j'avais négociées étaient toutes arrivées à bon port, et c'est ça qui m'avait fait gagner leur confiance.
Et c'était de grosses livraisons ?
De 200 à 300 kilos, jamais moins. La dernière que j'ai faite était de presque 870 kilos.
Bruno Fuduli était un intermédiaire important pour les mafieux. C'était un entrepreneur sans histoire, discret, calabrais et surtout insoupçonnable.
J'avais une société dans le secteur du marbre. Et c'est avec les blocs de marbre qu'on importait de la cocaïne. On m'avait obligé à le faire par le biais de ma société, mais un jour j'en ai eu marre d'être leur pion. Et j'ai décidé d'aller voir la police.
Bruno Fuduli a révélé aux autorités italiennes l'ampleur des moyens mis en œuvre par les trafiquants de drogue. Grâce à lui, la police a pu saisir 350 kilos de cocaïne cachés dans les blocs de marbre importés de Colombie pour le compte de sa société. Les blocs, arrivés dans le port calabrais de Gioia Tauro, avaient été refermés hermétiquement. Leur stratagème était indécelable à l'œil nu.
Les systèmes utilisés étaient les plus bizarres, les plus ingénieux. On a retrouvé de la cocaïne dissoute dans du jus d'ananas ou dans de la tequila ou encore cachée dans des boîtes de thon, même dans des blocs de marbre ou des tomettes à double fond.
Dans cette tomette, 600 kilos de cocaïne ont été retrouvés par la police dans un autre port italien près de Naples. Mais la grande opération qui a révélé l'ampleur du business de la cocaïne entre la 'Ndrangheta et les Colombiens s'appelle De Collo. Pour cette opération qui a duré 3 ans, Bruno Fuduli était équipé de micros insérés dans ses téléphones portables. Suivi à la trace par les policiers italiens, il a continué à signer les transactions financières, à se rendre au Panama, au Venezuela et dans d'autres pays d'Amérique latine pour le compte des mafieux. La police a pu ainsi enregistrer toutes ses rencontres. Et c'est en 2004 que les autorités ont finalement décidé d'arrêter tout le monde.
L'opération De Collo s'est déroulée dans plusieurs pays, en Amérique latine, en Italie, en France, en Allemagne, jusqu'en Afrique. Elle nous a révélé un scénario impressionnant où des milliers de kilos de cocaïne partaient de l'Amérique latine pour envahir le continent européen avec des bénéfices vertigineux. Il suffit de penser qu'au départ, un kilo de cocaïne coûtait 4 000 $. Les Calabrais la payaient 4 000 $ au kilo, pur à 98%. Quand elle arrivait en Europe, cette cocaïne était coupée. Avec un kilo, on en faisait 3 kilos. Et elle était revendue à 40 000 € le kilo. C'est avec l'opération De Collo qu'on a révélé pour la première fois que les narcotrafiquants étaient aux ordres des paramilitaires et que ceux-ci obéissaient à Salvatore Mancuso.
En remontant à Mancuso, les autorités italiennes se sont rendues compte qu'elles étaient arrivées au cœur du système du narcotrafic. Deux pays s'intéressaient de près à ce personnage, l'Italie et les États-Unis. Mais c'est finalement Washington qui a obtenu son extradition. Depuis 2002, les Américains ont donné près de 4 milliards de dollars d'aide militaire à la Colombie pour lutter contre les trafiquants de drogue.
La liberté d'agir comme il voulait, c'était le gouvernement colombien qui la lui donnait. C'était Uribe qui la lui donnait. Les FARC ont trucidé et tué tous les propriétaires terriens. C'est pour ça qu'Uribe a toujours donné son appui aux paramilitaires. Car les FARC ont tué des membres de sa famille. L'aval politique existe toujours. Sans appui politique, tu ne peux pas avoir ce pouvoir. L'État colombien sait pertinemment tout ce qu'ils font, qu'ils trafiquent de la cocaïne, mais il a besoin d'eux pour lutter contre la guérilla. Sans politique, tu ne fais rien.
Y aurait-il des liens entre les politiques colombiens et les paramilitaires narcotrafiquants ? Retour en Colombie, où en juillet 2001, lors d'une réunion secrète dans la bourgade de Santa Fe de Jalito, Salvatore Mancuso et d'autres paramilitaires ont rencontré des entrepreneurs, des maires, des sénateurs et des gouverneurs proches d'Alvaro Uribe pour préparer l'avenir du pays. C'est le pacte de Jalito.
Santa Fe de Jalito, c'est un petit village où se sont réunis des hommes politiques colombiens de toutes les régions du pays et des paramilitaires avec un objectif, refonder le pays, la refondation de la patrie. Ce projet est une mainmise des paramilitaires sur l'État colombien. Ils voulaient prendre le pouvoir politique et assurer leurs intérêts économiques avec le trafic de drogue. Mélanger la mafia, le narcotrafic, avec la création d'un nouveau pays. Leur Colombie serait libérée de la guérilla, de la gauche, des syndicats. Ils voulaient un pays qui s'ouvre, avec de grands projets économiques, et bien sûr, ils voulaient pouvoir tout contrôler. Et cette refondation de la patrie qu'ils visaient à travers l'accord de Jalito, c'est en fait la mainmise de la mafia sur la Colombie.
En 2002, Alvaro Uribe est élu président de la République. Conséquence de cette fameuse réunion secrète de Jalito, Uribe fait adopter la loi Justice et Paix, qui impose aux paramilitaires de rendre les armes et de témoigner en échange de réduction de peine. Pour beaucoup, il s'agit d'une manœuvre pour légitimer les paramilitaires et les dédouaner des crimes commis.
Selon cette loi, les paramilitaires doivent se soumettre à la justice et raconter toute la vérité sur leurs crimes et leurs activités délictueuses pendant cette guerre. En échange de quoi, ils obtiennent une réduction de peine. Mais si, pendant ce processus de paix, les enquêteurs découvrent que certains chefs paramilitaires ou des membres de leur milice ont menti ou qu'ils ont omis de dire des informations, alors ils perdent tous les bénéfices de cette loi.
Le 10 décembre 2004, Salvatore Mancuso, qui vivait alors dans la clandestinité avec ses paramilitaires d'extrême droite, décide de sortir de la jungle pour coopérer avec la justice. Dernier salut martial pour ses miliciens. L'un après l'autre, ils viennent tous rendre leurs armes pour en finir avec la guerre civile qui ensanglante le pays depuis 20 ans. Solennellement, Salvatore Mancuso explique cette décision historique.
Je redoute les questions et les récriminations dans les yeux de mes enfants quand je retournerai leur implorer pardon. Je veux bien assumer n'importe quel sacrifice. si en échange, cette nation retrouve le chemin de la réconciliation finale.
Officiellement, le but de cette loi était d'un côté de rétablir toute la vérité et de l'autre côté d'obtenir des réparations. Une fois que les chefs paramilitaires avaient confessé l'origine de leurs biens, ces biens devaient être récupérés et mis dans un fonds de réparation pour dédommager les victimes.
Mais la loi Justice et Paix est très controversée. Si d'un côté, la démobilisation a eu un impact positif pour le pays, arrêt des massacres, fin des déplacements de population, des actes terroristes et des homicides, de l'autre, elle a déclenché une véritable vague d'indignation. Pour ses opposants, cette loi serait un moyen de laver les paramilitaires de tous leurs crimes. Après avoir rendu les armes, Salvatore Mancuso est emprisonné pendant 2 ans à Itagüí. Une réclusion durant laquelle il continue à gérer ses affaires, muni d'un téléphone satellite et de son ordinateur. Et le 28 juillet 2004, il est extrait de sa prison bureau et invité à s'exprimer devant la commission Justice et Paix au Parlement.
Ici, beaucoup de gens voient d'un bon œil le processus de paix. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont fait la fête le jour de la démobilisation. Et quand Mancuso est allé parler au Parlement colombien, entouré de 2 autres chefs paramilitaires, de nombreux entrepreneurs de la région sont allés jusqu'à Bogota pour l'écouter parler.
Les familles colombiennes sont celles qui ont le plus souffert des rigueurs de la guerre. Il est important que nous aidions l'État à réparer les dommages causés à toutes les victimes, y compris nous-mêmes. Avec les pouvoirs économiques et avec l'État, nous devons arriver à un accord pour voir de quelle manière nous allons aider l'État à réparer les préjudices causés à la société colombienne.
Ici, les gens ont cru au processus de paix. Et ils ont cru Salvatore Mancuso lorsqu'il a fait son discours de paix.
Comme récompense à notre sacrifice pour la patrie, pour avoir libéré des FARC la moitié de la République et pour avoir évité que notre patrie soit un autre Cuba, un autre Nicaragua, nous ne pouvons pas être jetés en prison. Colombiens, transformons notre pays en une source d'inspiration et en une terre de paix pour toute l'humanité, où régneront les principes et les valeurs de la doctrine universelle des droits de l'homme. Soyons généreux lorsqu'il s'agira de pardonner les erreurs d'autrui et soyons humbles devant l'autel de Dieu et de la patrie en demandant pardon pour nos fautes. Que la Colombie soit dans nos esprits et dans nos cœurs, toujours vivante. Construisons le paradis entre les Andes et la mer. Merci beaucoup, honorables membres du Congrès. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Que Dieu bénisse la Colombie.
Selon le gouvernement, 31 000 miliciens ont déposé les armes entre 2004 et 2006. Mais seuls 116 d'entre eux sont aujourd'hui poursuivis en justice. Aucun n'a encore été condamné.
On peut dire que jusqu'à maintenant, en Colombie, 4 ans après le début du processus de paix, il n'y a pas eu de justice et encore moins de réparation. La vérité commence à sortir. Mais il y a beaucoup de chapitres qui restent encore obscurs. Disons que si on doit faire un bilan aujourd'hui, on a obtenu une partie de la vérité, mais pas toute celle que nous demandions. En revanche, il n'y a aucune justice ni aucune réparation.
Le bilan de la loi Justice et Paix est bien maigre.
Un des grands problèmes de cette loi, c'est la difficulté pour le système judiciaire pour juger tous ces gens. On manque de preuves. C'est difficile de trouver des preuves pour accuser chacun de ces 30 000 paramilitaires en armes. Il est compliqué de dire combien d'entre eux ont collaboré de façon active au massacre, qui a réellement commis ces crimes, qui était assassin, qui était juste complice. C'est très difficile d'identifier parmi 12 000 personnes qui prenaient les décisions, qui exécutaient les ordres, qui étaient les cerveaux de ces massacres. C'est vraiment très compliqué de prouver leur culpabilité.
Mais cette loi a permis de faire éclater au grand jour le scandale de la parapolitique, les liens du pouvoir avec les paramilitaires. Mancuso a commencé à livrer ses secrets. Au début, il n'accusait que des personnalités de second plan ou des personnes décédées. Puis il a fourni la liste détaillée des complices et des mécènes des AUC, comme des banquiers ou des généraux de l'armée colombienne. Au fur et à mesure des interrogatoires, il est devenu de plus en plus précis.
J'ai rencontré le général Rito Alejo del Rio à deux reprises. Une fois dans le département de Córdoba, dans la région de Paramillo, et l'autre près d'Urabá, entre les départements d'Antioquia et de Córdoba. J'ai aussi rencontré le général Mano Salva et le général Carreño. Nous nous sommes aussi réunis avec... Enfin, il y a tellement de militaires.
Le général Rito Alejo, surnommé le pacificateur de l'Urabá. Dès qu'il a pris le commandement de l'armée dans la région, les massacres et les déplacements de population ont explosé. La justice a prouvé que ces hommes travaillaient main dans la main avec les milices paramilitaires.
Rita Alejo portait l'uniforme et les insignes de l'État colombien. Son fusil était légal. Et il avait l'obligation de protéger les civils qui n'étaient pas impliqués dans le conflit et ne portaient ni uniforme ni fusil. Il a collaboré et nous a soutenus pour que nous tuions ces gens qu'il était censé protéger.
Et puis Mancuso a continué à parler, en impliquant cette fois le monde politique. Il aurait acheté la moitié des parlementaires du pays. À la suite de ces accusations, 65 sénateurs et députés ont été mis en examen et transféré à la prison d'Itagüí, comme l'ancienne députée Rocío Arias, élue en 2002 grâce à l'appui des paramilitaires. Rocío Arias avait exprimé ouvertement son admiration pour les chefs des AUC et avait défendu le dialogue entre les milices et le pouvoir. Elle était même devenue porte-parole d'un nouveau parti créé par d'anciens miliciens, le Parti du Mouvement National des Autodéfenses Démobilisées. Plus gênant encore pour le président de la République, Mancuso a déclaré que le vice-président colombien, Francisco Santos, lui aurait demandé de créer une unité de paramilitaires à Bogota pour ramener l'ordre dans la capitale. Même le cousin germain du président a été mis en cause. Le sénateur Mario Uribe a dû démissionner de son poste en raison de ses liens avec les AUC. Après avoir tenté de demander l'asile politique au Costa Rica, qui le lui a refusé, il a été arrêté et incarcéré en avril 2008. Au même moment, le 23 avril, Alvaro Uribe révèle à la radio privée Caracol qu'une investigation avait été ouverte contre lui dans le cadre de l'enquête sur un massacre en 1997. Uribe a nié toute implication.
Algunos creemos que el motivo real de la extradición de estas paramilitaires ont commencé à raconter la vérité. Mais c'est une vérité qui touche directement les sphères du pouvoir et le président de la République. Leurs déclarations ont aussi commencé à affecter les intérêts des multinationales, comme Chiquita, le producteur de bananes, Dole ou l'italien Del Monte. Ils ont mis en cause les affaires des entrepreneurs colombiens et là, ils ont été extradés. Je crois vraiment que leurs déclarations commençaient à devenir gênantes pour le monde des affaires colombiennes.
L'étau semble s'être resserré autour du président Uribe. Et le 13 mai 2008, Salvatore Mancuso et 13 autres chefs paramilitaires sont extradés vers les États-Unis. La raison officielle de cette décision subite, le gouvernement se serait rendu compte que les paramilitaires continuaient leur narco-business depuis leur prison. Alors, Uribe aurait décidé de les remettre entre les mains de la justice américaine. Mais pour les associations de victimes et des droits de l'homme, il faut chercher ailleurs les raisons de cette manœuvre. Le sénateur Gustavo Petro est le leader du Polo Democratico Alternativo, la deuxième force politique du pays. Escorté en permanence par 12 gardes du corps, cet homme de gauche est le politicien le plus protégé de Colombie. Il a été le premier à dénoncer la parapolitique d'Uribe. Selon lui, depuis la démobilisation et malgré la loi Justice et Paix, les paramilitaires ont continué leurs activités et tué au moins 3500 personnes. L'extradition était pour Uribe le seul recours possible pour sauver la face.
Aux États-Unis, ils vont être jugés pour trafic de drogue, alors que leurs principaux crimes sont des crimes contre l'humanité. En les jugeant pour narcotrafic, ils peuvent passer des accords avec la justice américaine qui ne porte que sur ce chef d'accusation. Les chefs paramilitaires espèrent obtenir des peines moins lourdes. Ils évitent aussi un procès devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Voilà, c'est cela l'accord Bush-Uribe paramilitaire qui est actuellement en cours.
L'extradition serait-elle un moyen de protéger Salvatore Mancuso? Pour certains, les autorités américaines seraient prêtes à se montrer clémentes avec les chefs paramilitaires afin d'obtenir des renseignements sur le narcotrafic et les méthodes de blanchiment. Des informations clés dans la guerre qu'ils mènent contre le trafic de drogue.
De nombreuses personnes ont applaudi à l'extradition des chefs paramilitaires vers les États-Unis pour trafic de drogue. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes observent avec inquiétude les négociations qui se déroulent en ce moment aux États-Unis. Ils ont peur qu'elles aboutissent à des peines de prison très réduites, même pas un an de prison. Et pensent que cette extradition est ambiguë.
Quel type de négociations sont en cours?
Les Américains veulent des informations sur les routes, les noms des narcotrafiquants, en échange de leur liberté, comme le fait souvent la justice américaine pour obtenir des informations. Et pour la Colombie, c'est triste que des gens qui font partie des années les plus sombres de notre histoire n'aillent pas en prison. Et ne répondent pas aux 15 000 personnes qui demandent la vérité sur ce qui s'est passé.
Salvatore Mancuso est aujourd'hui hors jeu. Mais même sans lui, la cocaïne colombienne continue d'inonder le monde entier. La Ndrangheta a trouvé de nouveaux partenaires et déjà, des groupuscules paramilitaires ont repris le business. L'histoire de la Colombie continue.